Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le numéro 85 de votre émission de cinéma préférée sur Transistor. Cette semaine, dans D'étoiles plein les yeux, je largue les amarres en compagnie de Maë, Sarah et Félix. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Occitane.
Ensemble, nous voguerons sur les eaux intranquilles du premier film de Bertrand Mandico, Les Garçons Sauvages, et nous nous méfierons de l'eau qui dort avec le très oscarisé La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Vous l'aurez compris, chers auditeurs et chères auditrices, cette semaine, notre émission n'est pas pour les marins d'eau douce. Et en fin d'émission, moussaillons, nous nous retrouverons pour parler des sorties et événements cinématographiques de la semaine. Mais tout de suite, commençons avec Les Garçons Sauvages que Sarah et Félix sont allés voir pour nous. Alors l'histoire se déroule au cœur de la Belle Époque et débute par le crime sauvage de 5 jeunes hommes de bonne famille envoyés sur un voilier pour être remis sur le droit chemin sous la houlette sévère du capitaine. Les garçons se mutinent et échouent sur une île déserte. Sous la canopée de ce jardin des plaisirs, une étrange métamorphose advient. Alors peut-être que pour commencer, vous pourrez nous dire ce que vous avez pensé de ce film.
Alors c'est un film, c'est difficile de dire ce qu'on en a pensé. Parce qu'à mon avis, il y a plusieurs étapes dans la manière dont on le considère. Parce que moi, il y a eu d'abord pendant tout le film où je me suis demandé est-ce que j'aime ce que je suis en train de voir, est-ce que ça me plaît. Et après, il y a eu tout le moment de réflexion post-filmique où on réfléchit pendant toute la soirée, le lendemain, et on continue à se demander est-ce que j'ai bien aimé ce film ou pas.
C'est un peu le même genre d'étape par lequel je suis passée. Pendant tout le film, je me suis dit est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas ? Est venu le générique de fin qui m'a épatée. Et ensuite, en rentrant, un débat assez houleux avec ma colocataire où j'ai complètement démonté le film. Je suis revenue juste après dessus en me disant non, en fait, il était bien. Et là, j'y pense encore. Et c'est encore très difficile de trancher, en fait. Parce que je pense que d'un point de vue esthétique, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Bon, l'histoire, c'est pas non plus ce que... Je ne sais pas ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Mais c'est l'apport que donne ce film en fait, au cinéma, peut-être. Il y a un truc à chercher dedans.
Mais même le fait que tu continues à te poser des questions, c'est déjà un indice.
Oui, oui, oui.
C'est un film qui fait beaucoup réfléchir, qui fait se creuser la tête. Et oui. Je pense que c'est une grande qualité.
Oui, et j'ai l'impression qu'il fait se creuser la tête, pas spécifiquement sur l'histoire, en fait, mais vraiment sur ce qu'est le cinéma et sur ce qu'est un bon film. Et je trouve ça hyper intéressant.
Oui, c'est un film devant lequel on peut pas rester indifférent, à mon avis. Mm. Parce que pendant tout le temps, on va se demander, mais est-ce que ça me plaît ? Qu'est-ce qui me plaît ? Est-ce que j'ai besoin de ça pour qu'un film me plaise ?
Oui, et je me rends compte aussi qu'il y a plein de degrés de lecture très différents. Parce que on peut avoir une approche très... Enfin, avec un premier degré de lecture du film où on considère juste le film comme un film comme les autres, en fait.
C'est sûr que ce serait un très mauvais film fantastique.
Ah bah oui, là pour le coup... Et pourtant, je connais des gens qui ont apprécié.
Parce que la critique a semblé le ranger assez abruptement dans la catégorie de film fantastique.
Oui, mais c'est toujours pareil, les catégories reflètent pas le film.
Oui, oui, oui. En plus, j'ai vraiment l'impression qu'il inaugure quelque chose, une sorte de cinéma queer. Enfin, peut-être que ça existait déjà, hein, mais...
Oui, après il se range quand même dans cette sorte de nouvelle vague française. Qui a aidé les acteurs Vima Laponce, Lauriard et tout ça.
Oui. Oui.
Et du coup, le film, sans vouloir se placer, il m'a semblé dans le registre de l'hallucination, dans une espèce de dérèglement raisonné de tous les sens. Et ça passe notamment par ce que j'ai cru comprendre de cette espèce de va-et-vient entre la couleur et le noir et blanc, notamment. Qu'est-ce que vous avez éprouvé ? Qu'est-ce que vous avez éprouvé comme... comme expérience esthétique ou comme est-ce que ce dérèglement un peu de tous les sens a fonctionné sur vous déjà, parce que manifestement déjà ça vous a fait réfléchir, mais quand vous étiez dans la salle, qu'est-ce que vous éprouviez?
C'est vrai que c'est un univers qui tangue beaucoup, Et donc, on est d'abord sur un bateau, il y a des tempêtes, il y a effectivement ce dérèglement entre les couleurs et puis le passage brusque au noir et blanc, et on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a aussi un dérèglement entre les styles. Il y a des passages qui sont extrêmement kitsch et assumés comme tels.
Délibérément kitsch, oui.
Oui, oui, oui. Et il y a des passages qui sont autres, enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils sont, mais...
Des passages avec une esthétique, oui, c'est ça, très kitsch, très léché, ou justement léché à l'extrême, et d'autres qui sont très trash.
Oui, ah oui, 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 il y a des passages.
Des fois, on est plus dans une esthétique du voile, de la gaz, des choses cachées. Et des fois, au contraire, c'est très explicite. Mais même, comme tu disais, Occitane, on est en permanence dans un film qui change entre des valeurs positives et négatives. Et même le fait que des moments qu'on aime et des moments qu'on n'aime pas, on est en permanence en train de se remettre en question. Et les personnages eux-mêmes sont toujours en train de se remettre en question.
Oui, oui, oui. Plus ou moins par la force des choses, d'ailleurs.
Voilà.
Et oui, et il y a aussi ces basculements entre la douleur et le plaisir que je trouvais assez, assez intéressant. Enfin, parce qu'il y a des passages très trash, comme tu l'as dit, et puis il y a des passages où c'est de la pure jouissance pour les personnages. Mais en même temps, il y a quand même cette inquiétude qui demeure. Enfin, moi, j'étais toujours un peu inquiète dans le film. Je me disais, il va se passer quelque chose d'horrible.
Oui, il y a toujours cette dialectique entre le positif et le négatif, comme ce que tu évoquais, le moment où les garçons sont sur le bateau avec le capitaine qui, comme on l'a dit, les maltraite beaucoup, et ils arrivent sur une île dans laquelle le capitaine va leur dire « jouissez autant que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez », et c'est incroyable.
Oui, et c'est vraiment exacerbé en fait. C'est ça ce qui est cool dans ce film aussi, c'est qu'on a l'impression que tout est poussé à l'extrême.
Et du coup, est-ce qu'il y aurait une séquence ou un plan ou une image qui vous aurait marqué, qui aurait marqué votre rétine en bien comme en mal ?
Moi, j'aime bien la scène sur la plage où c'est la nuit. Ils viennent d'échouer à nouveau sur la plage. Enfin là, ils viennent vraiment d'échouer plutôt sur la plage après s'être mutinés. Et ils trouvent des bouteilles de rhum, donc ils font la fête, les cinq garçons. Enfin, les quatre plutôt, puisqu'ils en ont perdu un en cours de route, plus ou moins. Et ils font la fête, c'est une espèce d'orgie, c'est très esthétique, c'est très beau, c'est un peu kitsch, hein, mais c'est très beau. Et puis, le lendemain, il y a un gros problème. On va pas dire ce que c'est, le gros problème. Mais il y a un gros problème entre deux garçons. Et il y a une scène de viol, et qui est très très belle aussi. Enfin, une scène de viol
Je pense que moi aussi, s'il y a une scène que je devrais citer... C'est cette scène de viol qu'on a à peu près aux trois quarts du film, où, pour vous resituer, en gros, ce sont des garçons qui sont des mauvais garçons, des garçons sauvages qui ont passé toute leur enfance, leur adolescence, à maltraiter des gens. Et une des premières scènes du film, c'est une scène où ils violent leur professeur. Et justement, là, on a une scène où ces garçons qui violent se font violer. Et c'est un beau renversement, parce que... Il y a tout qui se mélange en eux, encore une fois, cette idée des contraires qui se mélangent. Il y en a ces garçons violeurs qui se font violer, qui ressentent ce que ça peut faire, qui ont de l'empathie. Et c'est une très belle scène.
Ouais, ouais, ouais. Et même d'un point de vue esthétique, enfin d'un point de vue, je sais pas, réflexif comme esthétique, c'est très beau. Mais ça fait bizarre de dire que c'est une belle scène, une scène de viol.
Mais le film, en général, est très bien filmé.
Oui.
C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que c'est le premier film du réalisateur. Son premier long métrage, en tout cas. Et la qualité derrière la caméra, c'est vraiment admirable.
Oui.
Surtout que, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait la photographie aussi.
Mais je crois que c'est ce que tu m'avais dit.
Il était cadreur, plus photographe, plus réalisateur.
Donc, assez impressionnant comme travail.
Alors du coup, est-ce que vous recommanderiez Les Garçons Sauvages ?
Oh oui, complètement.
Ah oui, absolument, oui. sans hésiter.
Après, les auditeurs risquent de nous prendre pour des pervers si jamais ils vont voir le film et qu'ils se disent « Ouh là là !» Mais intéressant dans tous les points de vue.
Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, ce sera toujours intéressant et chacun va se faire son propre avis. Et c'est en tout cas un choc, ce film. Et c'est bien d'être choqué au cinéma.
Oui, et puis en plus, on peut avoir des autocollants qui sont très jolis.
Il est temps de passer au film qui a remporté pas moins de 4 Oscars cette semaine, Alors, les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, des meilleurs décors et de la meilleure musique, j'ai nommé La Forme de l'eau. Un fort beau palmarès, un fort beau titre, mais le film vaut-il tout cet engouement? Je suis avec Maë pour en parler. C'est l'histoire d'Elisa, donc une jeune fille muette employée de ménage dans un laboratoire de l'armée américaine où est retenue une mystérieuse créature amphibie et humanoïde trouvée en Amérique du Sud. Elisa développe des sentiments pour cet être qui s'avère être capable de communiquer en langage des signes, d'apprécier la musique et même d'éprouver des émotions. Lorsqu'elle apprend que les jours de la créature sont comptés, Elisa décide de l'aider à s'échapper, bravant le danger et le sinistre colonel Strickland. Alors Maë, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Eh bien, je n'ai pas aimé ce film, ou alors c'est même pas que je l'ai pas aimé, mais c'est que il m'a laissé complètement vide. Et comme tu disais, Félix, tout à l'heure, un film sur lequel tu vas continuer à penser pendant plusieurs jours, pour moi, c'est un bon film, que ce soit en termes négatifs ou positifs. Alors que là, je suis sortie du cinéma et une minute après, je pensais à autre chose. Et j'ai même peut-être pensé à autre chose pendant le film. Du coup, vraiment, j'ai trouvé qu'il était plat, qu'il y avait du potentiel. Il y avait de quoi faire quelque chose de sympa, mais on s'est contenté de raconter une intrigue somme toute assez simple et assez réductrice, sans creuser, sans aller au fond des personnages, au fond des choses, et du coup bah, ça donne un film qui se laisse voir, mais qui est assez inintéressant, je trouve.
Bon, alors c'est un constat assez sévère. Moi, alors j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très poétique, très touchant, même si... effectivement, je trouve que le film ne va pas assez au fond des choses, qu'il aurait pu un petit peu plus déployer tout un potentiel que conférait tout le thème subaquatique de la chose, on va dire, qui était un peu écourté. Parfois, les scènes, on avait envie de dire ah, ça coupe un peu trop vite, quoi. Après, malgré tout, j'ai trouvé que le titre était bien choisi. Enfin, on a quand même plusieurs fois l'impression d'éprouver confusément la forme de l'eau. Mais même si je pense que ça aurait pu, encore une fois, aller plus loin. Par exemple, les gouttes sur la vitre, lorsque elle va vers le laboratoire qui décrivent une espèce de chorégraphie qui rappelle les comédies musicales dont elle est fan. Et puis même tout le début qui nous donne l'impression que cette ville est une espèce d'aquarium, de monde subaquatique dans lequel elle évolue comme une espèce de poisson elle-même dans un bocal. Enfin, j'ai trouvé ça assez joli, quoi.
Mais disons que je trouvais qu'il y avait vraiment du potentiel. Il y avait un petit côté très fantaisiste dans tout l'univers là, qui nous présente surtout au début du film, qui effectivement est très agréable à voir. Moi, ça me faisait penser un peu au truc à la Amélie Poulain où voilà, elle a sa petite routine le matin qui est très drôle et qui est pleine de piquant, en fait. Son appartement est fabuleux, elle est au-dessus d'un cinéma, donc en fait elle entend les films qui viennent du dessous, et voilà, elle a toujours sa petite routine, elle met son béret contre la vitre le matin, enfin, toutes ces choses-là m'ont beaucoup plu, mais j'aurais aimé qu'elle se déploie tout au long du film pour raconter quelque chose, alors que j'avais l'impression qu'ils ont juste fait un décor qui était chouette, avec un personnage qui était chouette en surface, avec sa vie qui avait l'air intéressante au moins. Et tout ça pour arriver à, dès la moitié du film, à déployer une intrigue qui a plus beaucoup d'intérêt. Moi, j'aurais voulu en fait que dans ce film, on me raconte comment ce personnage intéressant, assez étrange, un peu fantaisiste, va tomber amoureuse d'une créature qui n'est pas humaine tout de même, donc c'était quand même très intéressant, et voir comment elle va passer, aller au-delà des apparences pour avoir une relation avec cette créature-là. Et je voulais qu'on évacue tout le côté armée américaine, guerre froide, le méchant qui est un grand méchant jusqu'au bout, qui a aucune profondeur, et on essaye de sauver la bestiole. Enfin, la bestiole, c'est un peu dur. Mais je sais pas, je trouve qu'ils sont passés à côté du film, en fait. Alors, même si c'était chouette, effectivement.
Si je devais trouver vraiment un aspect intéressant à ce film, enfin... Là où il y aurait peut-être une touche de profondeur qu'on pourrait lui concéder, ce serait dans le traitement des matières, des peaux et de la non-matière, entre guillemets, que serait l'eau. Paradoxalement, tout paraît artificiel, tout est dans des boîtes, tout paraît très bien construit, comme tu disais, un décor au cordeau, tout un monde recréé, ce général de l'armée américaine qui est un parangon de... Voilà, de tout ce qu'on peut imaginer du militaire américain extrêmement, psychorigide, et c'est rien de le dire. Et tout ce monde du militaire américain paraît extrêmement artificiel, avec sa Cadillac, on dirait une espèce d'énorme bonbon, sa maison, la gélatine que sa femme lui sert, etc.
Son caractère.
Et à côté de ça, on a la créature qui est très matérielle, je trouve, même dans le traitement du son, lorsqu'elle cligne des yeux, même le traitement de sa peau, de ses écailles, lorsqu'il la touche. Il y a quelque chose de très très matériel du côté des créatures, et ça, c'est pas dans ce film de Guillermo del Toro, il me semble. Enfin, il est très adepte du maquillage à la main pour les effets spéciaux, notamment dans le labyrinthe de Pan, la créature... Enfin, le monstre qui a les yeux à la place des mains, ou dans Crimson Peak, où au lieu de tout retravailler par effets spéciaux, il a choisi de vraiment maquiller des comédiens pour faire des espèces de fantômes un peu sanguinolents, étranges, qui se baladent dans la demeure. Et là, en fait, on a l'impression que c'est du côté des monstres fantastiques que vraiment il y a de la matérialité, qu'il y a un ancrage dans le réel, alors que du côté du monstre humain, entre guillemets, c'est-à-dire le colonel dont j'ai oublié le nom, eh bien, en fait, tout paraît totalement faux. D'ailleurs, sa femme lui sert l'espèce de gélatine comme ça, verte, dont le peintre Gilles, qui est le voisin de Elisa, a peint la peinture, puisqu'il n'arrive pas à passer à la photographie. Il est contraint de faire des pubs à la main, parce que, comme s'il n'arrivait pas à capter ces choses qui sont finalement des espèces de faux-semblants qui parcourent cette société et qui finalement paraissent moins réels. Enfin, les objets de consommation paraissent moins réels qu'une créature dont on sait pertinemment qu'elle provient d'une toute une mythologie profondément cinématographique qui est la créature du lagon noir, quoi.
Oh, mais je trouve qu'on n'y croit pas, justement, parce que le personnage du méchant est aussi artificiel, aussi inhumain. Enfin, inhumain dans le sens... voilà, c'est un stéréotype sur pattes, ce personnage. Eh bien, du coup, on n'y croit pas, mais du coup, toute la réflexion qu'il veut développer sur le fait qu'il y ait un méchant qui, en fait, le vrai méchant, c'est l'humain, et c'est pas le vrai monstre, c'est l'humain, et pas le monstre qui a l'apparence d'un monstre, eh bien, en fait, on n'y réfléchit presque pas, parce qu'on a affaire à une caricature de méchant, mais une caricature à la Disney, en fait, hein. C'est vraiment le méchant, voilà, c'est le méchant, jusque dans sa famille, jusque dans... qui a aucune pensée positive, qui a aucune histoire, aucune profondeur, enfin... Et du coup, en fait, on n'y croit pas, ce personnage, parce qu'en fait, ça n'existe pas, les méchants comme ça, même dans la vraie vie, enfin, je sais pas, c'est jamais aussi entier et aussi caricatural, et du coup... En fait, j'avais l'impression, pendant tout ce film, de voir un film Disney, un peu. C'était un conte qui avait, du coup... très peu de profondeur, et même il y a des contes qui ont plus de profondeur que ça.
Après, je me demande dans quelle mesure Guillermo del Toro assume pas le côté d'être du côté du conte dans tous ses films. Enfin, c'est vraiment son dada, on va dire. Enfin, dans le labyrinthe de Pan, il assume le côté conte. Là aussi, à la fin, tout le parallèle, enfin même dès le début, il y a tout le parallèle avec la petite sirène qui est fait, qui est totalement assumé. Donc je me demande dans quelle mesure le méchant absolument diabolique est entièrement méchant. Enfin voilà, peut-être qu'il faut le prendre comme il est. Bon, après, je comprends qu'il ne puisse pas plaire.
Mais... Après, c'est sûr qu'il assume le côté conte, hein, ne serait-ce que dans la manière dont il parle le narrateur parle au début de l'histoire. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de la chute de ce film ? Enfin, je veux dire, où est la morale ? Où est l'issue de la réflexion ? Parce que pour moi, ça finit, mais... la conclusion aussi m'a beaucoup déçue. C'est plat. Comment elle se finit, cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire du film, de tout c'est tellement manichéen, ce qu'il nous propose.
Oui, alors, il me semble que c'est manichéen. Mais après, il me semble aussi qu'il y a cette espèce de fin... encore une fois, la Guillermo del Toro, un peu doux-amer, où en fait, on se dit... tout finit mal, mais en y croyant très fort, on peut imaginer que ça finit pas si mal que ça. Enfin, pour ceux qui ont vu le labyrinthe de Pan... La petite fille meurt, tuée par les franquistes, pardon, et elle semble se réveiller dans une espèce de royaume imaginaire qu'elle a poursuivi pendant tout le film. Et en fait, on comprend très bien qu'elle ne se réveille absolument pas, mais que cette fin, c'est un petit peu pour panser nos blessures à nous, pour nous dire, voilà, quelque part, elle est morte dans son monde et elle est morte heureuse. Enfin, c'est toujours ces fins un peu doux-amères, extrêmement nostalgiques de Guillermo del Toro, et qui parcourent tout le film, cette espèce d'esthétique de la nostalgie, moi, je dirais. Enfin, d'un monde qui est en train de disparaître, de se fondre dans... Et qu'il n'y a que certaines personnes qui arrivent encore à toucher du doigt, c'est-à-dire les enfants, les gens un peu marginaux, etc. Mais que ce monde est perpétuellement en train de se défaire, sous les coups de boutoir de la société de consommation, en l'occurrence dans ce film, ou alors sous les coups de boutoir du franquisme... dans le labyrinthe de Pan.
Mais après, je sais pas. Hein. Je sais pas, moi ça m'a pas fait ressentir ça, tu vois. Enfin, intellectuellement, je suis là, bon, voilà, il a voulu faire ça, mais moi j'ai rien ressenti. Et Et peut-être, qu'est-ce que t'as pensé des... J'inverse les rôles. Mais qu'est-ce que t'as pensé des scènes où... Il y a plusieurs scènes, comme c'est tout un univers aquatique, il y a plusieurs scènes qui se passent dans l'eau avec cette, ce côté très flottant.
Eh bien, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait une inversion, enfin une subversion, en tout cas, de l'iconographie, on va dire, classique du, de la créature du lac noir, quoi. Où il y avait cette espèce de perversité de la créature dans le film original, où il y a toute cette scène dont on se souvient tous, où on voit la jeune scientifique qui nage à la surface pendant que nous, on adopte le point de vue de la créature qui l'épie entre les algues comme ça et qui ressemble à une espèce de... ça nous fait ressentir tout le potentiel menaçant de cette créature, alors que là, l'eau est utilisée vraiment pour créer toute une érotique, mais une érotique douce, enfin extrêmement enveloppante, par opposition, encore une fois, à la sexualité du méchant qui est totalement malaisante et totalement bon caricaturale, encore une fois. Et du coup, il m'a semblé que là, en tout cas, l'eau, et même renforcée par le titre, c'est-à-dire la forme de l'eau, il y avait vraiment quelque chose de très doux dans cet élément et que c'était... quelque chose qui, justement, enveloppait les choses et les êtres de manière extrêmement douce.
Parce que moi, je trouvais que l'idée était là, que c'était... On voyait que c'était aussi fait pour que ce soit esthétique, parce que des plans sous l'eau, on imagine tout le potentiel que ça peut avoir. Mais que, encore, là aussi, je retrouvais une esthétique qui était assez... basique en fait de plan sous
oui,
l'eau.
Là, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je trouve que c'était peut-être un peu convenu, et ouais. Que, effectivement... Comme je l'ai dit au début, c'est un peu, voilà, ça aurait pu être un peu plus poussé, qu'on aurait pu assister à des choses un peu plus osées, quoi, de la
disons
part.
Disons qu'il y avait ce côté qui était tellement esthétisant que du coup, c'était trop beau pour qu'on rentre vraiment dans une vraie esthétique. Si ça avait eu un petit côté un peu plus réel, un peu plus concret en fait, au lieu de garder ce sorte de distance où on est en train de parler juste d'un conte. Et ben oui. Peut-être que, je sais pas, il y aurait eu quelque chose de plus intéressant, alors que là, c'est trop lisse, en fait, je trouve, comme esthétique.
Après, moi, la concrétude, je l'ai retrouvée quand même dans certaines séquences, bah, notamment, spoiler peut-être, bon, pas un très gros spoiler, en tout cas, lorsqu'il dévore la tête du chat, ou avec tout ce jeu avec la créature, ou tout ce jeu où il... où le méchant joue avec ses doigts qui sont en pleine décomposition, enfin... Quand même, il y a... Et puis, même la première tâche qu'on confie aux deux femmes de ménage, c'est de nettoyer tout le sang qui a été déversé dans le labo, etc. Enfin, il y a quand même des moments d'extrême concrétude, quoi.
Voilà, mais quand même des moments convenus, parce que là, tu parles des deux femmes de ménage. Tiens, on en parle de la pote femme de ménage, Black, qui est là juste la bonne grosse rigolote, et qui sert à rien, et dont les blagues sont... sont celles de qu'on peut entendre dans des mauvais films ou dans des mauvais feuilletons. Oui, aussi les dialogues, enfin bref.
Ouais, alors moi j'ai trouvé peut-être un peu... Bon, maintenant que tu le dis, elle est peut-être un peu convenue aussi, l'ami. Bon, après, j'ai pas prêté une attention folle, c'est vrai, et peut-être que c'est là le défaut du film, de pas la mettre suffisamment en valeur. Après, c'est vrai que voilà, l'actrice centrale, ça reste... le rôle central, ça reste Elisa.
Oui,
et son ami, c'est peut-être un peu pour apporter un peu de légèreté à tout ça, effectivement.
Mais
bon, je suis pas une défenseuse absolument de ce rôle de l'ami, effectivement, qui peut-être se révèle un peu cliché, effectivement. Même si elle était pressante, elle a été nommée pour le rôle de, enfin le second rôle.
Alors, il se trouve que cette actrice, je crois, a joué dans d'autres films.
Oui, elle a joué dans
bien mieux. Oui. Bien mieux.
Bon, donc du coup, je ne te demande pas si tu recommandes ce film ou pas.
Non, mais c'est... C'est pas désagréable quand on y est, mais bon, de là à dire que c'est immanquable.
Alors moi, je dirais pas que c'est immanquable.
Après, il a eu 4 Oscars. Hein.
Oui, mais bon, c'est pas moi qui décerne les Oscars. Et donc, je ne dirais pas qu'il est immanquable. Il est très agréable à regarder. Enfin, je l'ai trouvé assez poétique. Et voilà, c'est un bon Guillermo del Toro, même si, c'est sûr, il ne m'a pas transcendé. Et tout de suite, on passe aux sorties de la semaine. Ce mercredi sort le très attendu, en tout cas par moi, La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher, qui est un film de zombies qui se déroule, une fois n'est pas coutume, à Paris. En se réveillant ce matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son plein, Sam doit se rendre à l'évidence, il est tout seul et des morts vivants ont envahi les rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger et s'organiser pour continuer à vivre, mais Sam est-il vraiment le seul survivant ? Ensuite va sortir La caméra de Claire de Hong Sang-soo, le dernier film du réalisateur coréen. Lors d'un voyage d'affaires au festival de Cannes, Man-hee est accusé de malhonnêteté par sa patronne et licencié. Claire, incarnée par notre Isabelle Huppert nationale, se balade dans la ville pour prendre des photos avec son Polaroid. Elle fait la rencontre de Man-hee, sympathise avec elle et la prend en photo. Du côté des événements, maintenant, le dimanche 11 mars à 21h, le cinéma Lumière Terro organise une rencontre avec João Pedro Rodrigues autour de son film « Au fantasma ». La nuit, un chien aboie longuement, un homme habillé de latex en sodomise un autre, des éboueurs enlèvent des ordures dans les quartiers malfamés de Lisbonne, parmi eux Sergio est très travaillé par ses désirs homo, tendance sadomaso. À la faveur d'une de ses rondes, le jeune homme tombe sur le fantôme de ses rêves, un motard pour lequel il va nourrir une véritable passion. Incapable de l'aborder, encore moins de le séduire, lui dont l'univers n'est qu'immondice, poubelle et désir sale, Giorgio va se mettre à fétichiser tout ce qu'a touché son motard adoré, la moto bien sûr, mais aussi un vieux slip usagé, l'eau de la piscine où il a nagé, voire les parois de la douche où l'autre vient de se laver et que Sergio va lécher jusqu'à la jouissance. Au fur et à mesure qu'il s'enferme dans son obsession, il va non seulement fétichiser mais totalement chosifier l'objet de son désir. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Félix, Maë et Sarah pour leurs avis éclairés. À la semaine prochaine et bonne semaine dans les salles obscures.